Ciné culte, exploration de planches iconiques du 9e art. Ce mois-ci, nous nous penchons sur un classique de la fantasy, La quête de l'oiseau du temps de Loisel et Le Tendre. Alors, l'actualité, c'est la fin du préquel qui s'appelle Avant la quête, qui fait 8 tomes contre 4 tomes à la série classique. Vincent Mallier vient de terminer avec un magnifique album édité chez Dargo. La série, rappelons-nous, elle a commencé dans Charlie Mensuel en 82, 9 planches par mois, et l'album, le premier album est sorti en 83. Il y a eu en tout 4 tomes, le dernier fait 62 pages, en direct album en 87. Et là, on va voir un chef-d'œuvre de la fantaisie, ça inaugure dans les années 80 ce nouveau registre de la fantaisie dans la BD populaire, et on a 213 planches, donc on revient à la série originale. On va commenter les planches 24, 25 et 26 du tome 1, La Conque de Ramor, qui est paru en 83 et qui a eu pas moins de 17 rééditions, c'est vous dire le succès de l'album. Alors, on va planter un peu le contexte de cette histoire. C'est le légendaire chevalier Bragon. Il pense en avoir fini avec sa vie aventureuse, dont les exploits ont fait les heures les plus riches des conteurs d'Apcar. À présent, il est vieux, il n'aspire plus qu'au repos, retiré dans sa ferme des hauts plateaux du Médire. Mais sa tranquillité ne va pas rester là très longtemps, puisque finalement, Pélisse, une jeune vierge sauvage, rousse, aux formes généreuses, accompagnée de son fourreux, un animal étrange de mystérieux pouvoir, va venir le réveiller et lui dire qu'il a une mission. En effet, sa mère, qu'il avait connue dans une vie antérieure, qui est racontée dans Avant la quête, sa mère Mara, a un message. Et ce message, c'est de l'aider à capturer l'oiseau du temps pour vaincre le mal qui est sur le point de se réveiller. Voilà. Alors, le dessinateur de cette saga, c'est Régis Loisel, qui est né en 1951. Il est né à Saint-Maxin et il a le déclic à l'âge de 6 ans en regardant Donald de Walt Disney. Il s'est dit, moi, je vais dessiner comme Disney, je vais faire du dessin animé. Il monte à Paris pour faire de l'animation dans un studio en 71. Il va collaborer avec la revue Les Pieds Nickelés de Molly Terny, puis Mormoil, Pilote, Pif et Charlie Mensuel. Et il va suivre les cours du soir à Vincennes. Et là, cours du soir à Vincennes, on avait Mézières, Giraud, plein de grands auteurs du 9e art. Et c'est Jean-Claude Mézières, l'auteur de Valérian, qui va lui faire rencontrer Cotias et Le Tendre qui va devenir son scénariste. Alors, tout ce petit monde va collaborer à des fanzines, tous bourrins, 4 numéros, avec Cabane, Taffin et Loro. Et en 75, il y a un thème imposé, c'est Giraud qui a l'idée, c'est le temps qui passe. Et au moment de cette thématique, eh bien, Le Tendre et Loisel vont imaginer le mythe de l'oiseau du temps. Et ils vont créer 12 pages, publiées dans la revue Imagine, qu'on retrouve dans les premières éditions en noir et blanc des deux premiers albums de La Quête. Alors, Loisel va beaucoup travailler avec d'autres dessinateurs, Taffin et Michel Rouge. Il va créer l'atelier Bergame et il va souvent travailler aussi au scénario. C'est-à-dire qu'on peut parler d'œuvres à quatre mains. Il va créer par la suite la série Le Magasin Général avec Trip. Il va collaborer avec Disney, c'était son rêve. Il a travaillé sur le design de Mulan et d'Atlantis. Et il a aussi coécrit Le Grand Mort avec l'écrivain Philippe Djian et Vincent Mallier, qui fait aussi la quête, Avant la quête. Donc voilà, un auteur complet qui a multiplié les projets. Alors, effectivement, cette série, son succès vient de l'amitié, de la complémentarité qu'a Loisel avec Serge Le Tendre. Serge Le Tendre est né en 1946, il est né à Vincennes, au début il est aide-comptable, et petit à petit il va se passionner par la bande dessinée avec l'université de Vincennes en rencontrant Mézières et Giraud. Il va publier des premières idées d'histoire dans Pilote en 1974. Il va créer un polar avec Daudier, Jérôme Cabloche, et par la suite collaborer avec énormément de dessinateurs dans des genres très variés. On va citer Rosy avec la mythologie, Tirésias, la gloire des rats, la psychologie, les errances de Julius Antoine, avec Servin, la SF, Siloé, Taduc, le western, c'est Chinaman. Voilà, donc c'est un touche-à-tout, Le Tendre. Voilà. Et donc, on va vous proposer de rentrer dans le début de La quête de l'oiseau du temps, à savoir le premier album, La Conque de Ramor. On va vous faire écouter, découvrir les planches 24, 25 et 26. Au début, nous sommes dans une ambiance nocturne. Une bête est en train de se faire dépecer par des charognards. Lentement, comme la nuit qui envahissait le ciel d'Akbar, la colère, elle, étouffait Bragon. Il venait d'être traité comme jamais. Et là, on entend Bragon. « Par les crocs du Borak, Mara se moque de moi. Après toutes ces années de silence, d'oubli, voilà qu'elle m'envoie sa bâtarde me provoquer chez moi dans mon ermitage. J'enrage ! Et là, on voit la belle Pélisse. Moi, une bâtarde ? Bragon, je ne te permets pas. Ah, silence, toi et ton bestiau ! Et on entend le petit oiseau. Calme, mon petit maître, calme. Ah, c'est un fourreux. Mara a dit qu'il a d'étranges pouvoirs. Ah, bah, pouvoir, magie, sortilège. Ouais, je reconnais bien les artifices de Mara. Et je ne suis plus un jouvenceau qu'on envoûte et qu'on chasse à la première querelle, moi. Je suis encore Bragon, le chevalier Bragon. Ouais, enfin, j'étais. Parce que maintenant, hein. Maintenant, il ne dépend que de toi de le redevenir, dit Pélisse. Et là, elle lui tend un objet magique, une pierre qui rayonne. Regarde, Mara m'a confié le message, il t'expliquera tout. Tout ! Hein ? La pierre tombe par terre, et là, on voit un hologramme se développer. Et là, on voit l'image de Mara apparaître. Mara ? Hein ? Unis-tu le Bragon ? Elle ne t'entend pas. Comme je te l'ai dit, ce n'est qu'un message. Ah bon ? Et là, on voit le fantôme de Mara apparaître et parler. Moi, Mara, princesse sorcière de la Marche des Voiles, d'écume, salue le très puissant chevalier Bragon et l'informe. Regarde. Aux temps anciens, les dieux régnaient en bonne entente sur Hagbar. Leur magie était puissante et respectée. Cependant, un jour, l'un d'entre eux tenta de renverser ses pairs pour s'emparer du pouvoir force. Il s'appelait Ramor. Et là, dans un brouhaha, dans un malestrom de pluie et de feu, on voit se dessiner le visage d'un spectre menaçant. Voilà. Donc le décor est planté. On voit bien, à travers ces trois planches, une ambiance se mettre en place. La rencontre du surnaturel dans un monde naturel sauvage. On passe de cases rectangles horizontales à des cases plus verticales. On passe du bleu au beige sépia. Donc on voit une ambiance basculer. On voit à travers le dialogue entre Bragon et Pélisse tout un enjeu de l'histoire, l'idée de la filiation, de ce vieil homme qui est seul, de Mara, la femme qu'il a aimée, qu'il a quittée, et est-ce que Pélisse n'est pas sa fille ? Ça va être vraiment toute la question qui va être posée au long de la quête. On voit l'apparition de la magie, un double magie à travers un animal, le fourreux, qui lui, on va comprendre à la fin, mais ça c'est, on va pas vous spoiler en quoi est la magie de ce petit animal, qu'est-ce qu'il provoque. Et le minéral, cette pierre qui crée du cinéma, qui crée un spectacle. Et on voit à la fin des cases qui explose le cadre classique du gaufrier, où on voit une espèce de maelstrom en sépia, d'eau, d'air, de feu, et on voit une vision fantomatique d'abord d'une femme, et d'un univers, d'un monde, et d'un esprit du mal qui apparaît. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un lettrage rouge qui va surligner les mots clés, hein, le mot chevalier, le mot tout, et on voit bien qu'on a un double enjeu dans cette série, qui est à la fois un enjeu intime, l'histoire d'un homme désabusé qui n'a pas réussi à construire une famille, et un enjeu cosmique de sauvetage du monde. Voilà. Donc tout est posé de façon très claire au début de cette histoire. Alors, est-ce qu'on a vraiment un héros avec ce personnage de Bragon ? On peut dire que Bragon, il a été conçu comme l'antithèse de Conan, hein, le barbare, c'est-à-dire quelqu'un qui est un chevalier, mais qui est vieux, hein, on le sent bien dans les dialogues, il est râleur, il est misogyne, il est misanthrope, et le mot Bragon a été créé avec le mot dragon et bravache. Et donc, la jeunesse de ce personnage, on va le découvrir de façon très cohérente, puisque c'est Loisel et Le Tendre qui sont au scénario, il y a trois dessinateurs, avant la quête. Voilà. Et cette quête, effectivement, elle est importante, elle est originale, parce que c'est une quête indirecte. C'est pas lui qui va agir pour, finalement, contrer le mal. Sa quête, c'est de trouver l'oiseau magique pour arrêter le temps nécessaire à Mara, la princesse sorcière, pour sceller la prison du dieu maudit Ramor, qu'on voit à la fin de la case. Dieu qui risque de s'échapper de sa prison et de finalement réduire le monde en esclavage. Et Bragon, dans l'histoire, va devenir un chef de groupe et on va voir qu'il va devenir de plus en plus passif et la fin va être très, très étonnante. Voilà. Alors l'univers, on est vraiment une des premières BD où on a l'héroïque fantasy qui qui apparaît. On connaissait des romans, on connaissait des films, mais là, vraiment, cette BD, elle est novatrice, puisqu'en fait, on voit des territoires, comme chez Tolkien, qui sont régentés par des rois sorciers. On a une trame qui fait vraiment écho à la trame de La Flûte Enchantée de Mozart. J'en dirai pas plus, ça peut vous donner une clé de lecture de la fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on va avoir une trilogie, et les deux auteurs se sont pris au jeu. On a 4 albums, et on a un quatuor de personnages qui se développent. Alors, Pélisse, on la voit là, elle est plutôt sexy, on peut penser aux héroïnes de Russ Meyer à la forte poitrine, avec cette idée autour de qui est-elle la fille. L'idée d'un homme inconnu, qui lui est un garçon de ferme, couard et gaffeur, qui va devenir un héros. On a Bulrog, c'est l'ancien élève de Bragon, qui est en quête de vengeance et qui, à la fin, va peut-être se racheter. On a Kiskil, une jeune femme qui est une avatar de Lilith, la démon tentatrice. On a le Rige, qu'on va retrouver dans le tome 3 des deux séries, c'est le maître de Bragon, le maître qu'il faut tuer pour devenir un héros. Et tout un bestiaire de personnages. Alors là, on voit bien l'intérêt de Loisel pour les dessins animés et Disney, des Lobvents, des Gris-Grelais, l'esprit du fleuve, Foldedol, et à la fois une capacité à dessiner des décors urbains et sauvages. Alors, les influences graphiques de Loisel, elles sont doubles. C'est à la fois le semi-réalisme des Prado, Gossin, Stardi ou Moebius, le style humoristique des Plessis, Herriman, Uderzo et Maurice, avec tout un côté de vouloir sortir de la narration classique, et on le voit dans ces 3 planches, qui est un peu l'apanage du groupe Bazooka. Sur les références, on sent l'univers Disney qui apparaît, hein. Loisel va dessiner un Mickey Café Zombo en 2016, on a l'univers de Mad, de Jack Davis et de Wallace Wood, et aussi dans l'univers plus graphique, plus poétique de Gustave Doré pour les plans d'ensemble et tout le côté cosmogonique de l'histoire. Alors, le style de Loisel va évoluer entre le caricatural de sa première série, Les Nocturnes en 1974, au style réaliste dont il est vraiment friand, parce qu'il va illustrer Loisel un certain nombre de classiques de la littérature à l'école des loisirs. Et ce style, il évolue de 1975 à 1982 vers un plus grand réalisme, avec des touches de surréalisme dans le traitement des personnages humanoïdes. Et on voit vraiment, si vous reprenez les deux premiers albums, l'évolution entre la première version de 75 en noir et blanc et puis les versions d'après. Alors, les thématiques de cette grande saga, c'est des histoires intemporelles qui sont liées à l'enfance, qui sont liées aux héros qu'on rêve d'être, qui renvoie à l'idée de la famille décomposée, d'un monde au bord du chaos et de la question de l'emprise des forces occultes avec effectivement Ramor et avant la quête, la question de l'ordre du signe et cette foi dans la créativité et magie de la nature. Donc une BD un peu écologique avant l'âge. Alors la postérité de cette série, elle est double. On a un préquel en 4 tomes qui sont devenus 8 tomes qui viennent de se terminer. Donc le scénario, il a été fait toujours avec le tendre. À l'époque, Loisel faisait la grande série aussi qui a fait sa célébrité, Peter Pan. Donc, ils ont choisi plusieurs dessinateurs. Alors, il y a eu Lidvine, il y a eu Mohamed Ouamri, il y a eu David Etienne et Vincent Mallier qui conclut le cycle après un premier passage. Et aujourd'hui, on a une grande attente. C'est un peu comme dans Les Guerres des Étoiles. C'est l'idée d'une suite. C'est-à-dire que logiquement, Loisel devrait conclure la quête de l'oiseau du temps, revenir sur le personnage de Bragon qui va ressortir de cette épreuve relativement désabusée, plus qu'il ne l'était peut-être au début. Voilà. Alors, quel sens a aujourd'hui la quête de l'oiseau du temps ? Eh bien, on peut dire que cette série, si elle a marqué, c'est parce que c'est vraiment une réflexion croisée sur la famille, le mal et le temps. La fin, elle est très étonnante. Elle était prévue depuis le début, on ne va pas la dévoiler, mais c'est une fin assez déchirante, assez poétique aussi, qui a marqué beaucoup les lecteurs de bande dessinée. Et aussi, l'idée intéressante, peut-être philosophique, c'est que ceux qui veulent nous sauver du mal nous y enchaîneront souvent plus que ce qu'on pense. Et ça dénonce l'hubris du pouvoir humain et du pouvoir de la magie de tous ces rois sorciers. C'est aussi, paradoxalement, une invitation à redécouvrir le sens du merveilleux, du chevaleresque dans un monde au bord du chaos. Et on peut dire maintenant que la geste du chevalier Bragon qui reste à achever est une leçon d'humilité à méditer. Voilà, merci messieurs Loisel et Le Tendre de nous avoir fait rêver avec cette quête de l'oiseau du temps.